Le mercredi, retrouvez Chaud Devant de 11h à 11h30 et en rediffusion le samedi de midi à 12h30. Et c'est animé par Gilles.
Bonjour. Vous vous retrouverez ce jour le deuxième volet de l'enquête sur le thon, puis un nouvel épisode sur les épices. Vous la voulez, la voici. Voici la recette, et non pas la retraite, de la spécialité incontournable de notre Poitou. Je veux bien sûr parler du trop fameux broyé poitevin. Et pour finir, si on a le temps, pour rester très terrien, voire très terroir, encore un extrait de notre patrimoine. Je vous causerai Contes et légendes du Poitou. Là, ça s'annonce mal, une émission pareille. Mais non, vous allez voir, tout va rentrer dans l'ordre. Mais avant cela, de la musique. Et bien évidemment, on commence toujours par de la musique. Et j'aime tout chez vous. Et figurez-vous que c'est un chanteur basque de chez nous. J'aime tout chez vous. Daguerre.
Vos belles chaussures, votre grosse voiture, j'aime votre allure, mais l'intérieur, c'est une horreur. Bah, y'a tout à refaire, l'ego, les viscères, le cœur, la bile, votre air débile, votre air débile. J'aime tout chez vous, j'aime tout chez vous, j'aime tout chez vous, sauf vous. J'aime vos cheveux et vos beaux yeux, mais ce que je vois dedans, c'est écœurant, c'est écœurant. Quand je m'y noie vraiment, je me noie pour longtemps. Et la nausée, c'est pour de vrai, c'est pour de vrai. J'aime tout chez vous, j'aime tout chez vous, j'aime tout chez vous, sauf vous. Vous éduquez et l'air de rien, recommencez au chiffre 1. Pour l'instant, vous n'en êtes pas loin, votre numéro. Proche de zéro. J'aime tout chez vous, j'aime tout chez vous, j'aime tout chez vous, sauf j'aime tout chez vous, j'aime tout chez vous, j'aime tout chez vous, sauf.
J'aime tout chez vous, c'était donc Daguerre, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, vous êtes bien dans la bonne émission, puisque vous êtes dans Chaud Devant, faut y rester, c'est obligatoire. Je vous parle maintenant d'un truc vachement moins rigolo, puisqu'il s'agit du mercure que l'on trouve dans le thon. Et figurez-vous que les publicitaires nous disaient il y a 40 ans, le thon c'est bon. Eh ben, faut voir. Donc, je cite l'association Bloom. L'association Bloom, qui est une association de sauvegarde de l'environnement et du milieu marin, plus particulièrement. Et donc, rappelons pour commencer, je cite, que le mercure, dont les émissions mondiales ont fortement augmenté depuis 2 siècles, se retrouve en grande quantité dans l'océan. Il s'accumule dans les poissons sous la forme la plus toxique, le méthylmercure, finissant dans les rayons puis dans les assiettes de millions de familles. Le thon, en tant que prédateur situé au sommet de la chaîne alimentaire, accumule des métaux lourds de ses proies et présente ainsi une contamination décuplée en mercure par rapport à de plus petites espèces. Le thon est le poisson le plus vendu en Europe. En France, on en consomme en moyenne 5 kg par personne par an. L'ingestion régulière de méthylmercure représente pourtant, même en faible quantité, un grave danger pour la santé, en particulier pour le développement cérébral des fœtus et des jeunes enfants. C'est formidable. 100% des boîtes de conserve testées par Bloom sont contaminées au mercure. Bloom a donc sélectionné aléatoirement 148 boîtes de conserve dans 5 pays européens. L'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, la France et l'Italie. Et les a fait tester par un laboratoire indépendant. 100% des boîtes sont contaminées au mercure. Plus d'une boîte testée sur deux, soit 57%, dépasse la limite maximale en mercure, la plus stricte définie par les poissons. Sur les 148 boîtes, une boîte de la marque Petit Navire achetée dans un Carrefour City, je cite toujours, parisien, affiche une teneur record de 3,9 mg, c'est-à-dire 13 fois plus élevée que celle des espèces soumises à la norme la plus restrictive, soit de 0,3 mg. En raison des dangers posés par une ingestion régulière de mercure, même à faible dose, l'ensemble des boîtes de conserve dépassant la norme de 0,3 mg devrait être interdite à la vente, et ce n'est pas le cas. Et donc je termine avec des simulacres de normes sanitaires pour maximiser la vente des produits contaminés. Bloom a analysé in extenso des centaines de documents officiels provenant des instances internationales en charge des normes sanitaires. Commission européenne, ministère de l'Agriculture, concernant le mercure. Forcément, notre enquête révèle que pour définir les teneurs maximales en mercure des thons, aucune méthode ne prenant en compte les conséquences sur la santé des adultes et des enfants n'est utilisée. Les pouvoirs publics européens choisissent au contraire une approche en complète opposition avec le devoir de protection de la santé publique. Ils partent de la contamination réelle en mercure des thons pour établir un seuil qui assure la commercialisation de 95% d'entre eux. C'est la raison pour laquelle le thon, espèce parmi les plus contaminées, se voit attribuer une tolérance maximale en mercure, 3 fois plus élevée que celle des espèces les moins contaminées. Les espèces que pour le cabillaud par exemple. Aucune raison sanitaire ne justifie cet écart. Le mercure n'est pas moins toxique s'il est ingéré via du thon. Close to me. The Cure.
Devant, l'émission culinaire sur ROC 103.7 le mercredi de 11h à 11h30 et c'est animé par Gilles.
Tout ce que vous avez voulu savoir sur les épices sans jamais oser le demander. En même temps, vous êtes timide, hein. Le Dixit, le livre de Madame Inespérée aux éditions du Livre Naturel. Donc, je cite encore et toujours. On en était resté à la badiane la semaine dernière. Là, on retrouve la cannelle. Et la cannelle casse, c'est une autre forme de cannelle. C'est la plus ancienne des épices. Elle est mentionnée pour la première fois dans un traité botanique chinois de 2700 avant Jésus-Christ. On la retrouve dans la Bible et les papyrus égyptiens qui indiquent que la précieuse écorce du cannelier est plus chère que l'or. Il existe deux variétés de cette épice, la cannelle casse et la cannelle. Une fausse cannelle, la cannelle de Chine. Cinnamonum cassia est une vraie cannelle, celle de Ceylan. Et Cinnamonum zelanicum ou venum, dès l'Antiquité, les deux ont leur légende. Cet Hérodote qui le premier a mis cette fabuleuse histoire par écrit. La cinnamome se trouverait dans les nids d'oiseaux et surtout dans celui du phénix, situé au lieu où le dieu Libère a été élevé, au sommet des rochers et d'arbres inaccessibles. Là, on est carrément dans Harry Potter. D'où on le ferait tomber, soit par le poids de viande que les oiseaux y apporteraient eux-mêmes, soit par des flèches plombées. Quant à la cassia, elle pousserait au bord du marais. Aristote aussi en parle. Et bientôt, pratiquement tout le monde s'extasie sur le courage des braves explorateurs arabes qui lançaient des bouts de viande, parfois des ânes entiers, à ces terribles oiseaux. Pendant qu'ils mangeaient, les courageux marchands allaient chercher la cannelle dans leur nid. Ces exploits avaient évidemment un coût. La cannelle était hors de prix. Notre pipelette de Pline indique que son cours avait explosé à la suite d'une révolte de barbares pour atteindre 1500 deniers, soit 1500 fois le salaire maximum d'un travailleur manuel de l'époque. La vraie cannelle est originaire du Sri Lanka. Plus elle est pâle, meilleure elle est. Achetez-la en bâtons, qui sont des bouts d'écorce prélevés sur les plus belles parties externes de l'écorce. Ces tuyaux, donc, sont roulés à la main et sous les aisselles, jusqu'à ce qu'ils soient secs et lisses. Leur parfum est doux et agréable, délicat mais intense, avec une saveur vive et nettement définie, et un goût d'abord sucré, puis chaud et aromatique. La cannelle casse est plus parfumée. L'écorce du cannelier casse est très dure, et souvent utilisée moulue. Rugueuse et brun gris à l'extérieur, elle est lisse et brun rouge à l'intérieur. Les bords se recourbent et l'écorce prend alors la forme de tuyau, qui est classé en fonction de la longueur, de l'arôme et de la couleur. Son parfum est plus intense, plus chaud, plus musqué que celui de la cannelle, et sa saveur plus douce, avec une note amère et astringente. À vous de voir celle que vous préférez utiliser pour la cuisine. Donc, vous pouvez aussi utiliser de la cannelle râpée, mais vous pouvez faire facilement un rhum arrangé, notamment avec cette cannelle en tuyau, que vous glissez subrepticement dans votre litre de rhum blanc, et vous allez faire un rhum arrangé en rajoutant aussi, sans doute, moi je rajoute notamment des feuilles de sauge, je rajoute aussi du gingembre, que j'épluche par contre, je mets un morceau de gingembre, et vous pouvez y mettre un tas de choses. Dès l'instant où vous allez y mettre des fruits, sachez que le rhum arrangé se gardera beaucoup moins bien, puisque lui, ce sera un rhum arrangé nature que vous aurez fait avec vos petits doigts et vos petites mains. Forcément, il n'y aura pas de conservateur et ça sera bien meilleur. On termine avec la cardamome. Ce membre de la tribu du gingembre est originaire des montagnes de Malabar. Mais on trouve sa trace en Égypte, sur les papyrus vers 1550 avant Jésus-Christ et dans les textes védiques. Son nom sanskrit est « graine de paradis ». On sait qu'elle poussait dans les jardins du roi de Babylone en 720 avant Jésus-Christ. On dit en Inde que le poivre est le roi des épices et la cardamome la reine. La cardamome verte est la meilleure. La cardamome blanche est la même, version blonde décolorée. La grande cardamome ou cardamome noire, originaire du Népal, au goût fortement camphré, est à éviter dans vos plats. Mais quelle que soit sa couleur, achetez-la entière. Hors de leur enveloppe, les graines perdent très rapidement leur fragrance. Pour la tester, ouvrez une capsule et goûtez les graines qui sont un arôme chaud, fort et peu camphré. C'est assez fort, hein, ça vous démonte la mâchoire quand même. Hein. C'est spécial, c'est pas pimenté, mais c'est fort en parfum, on va dire. Et vous pouvez aussi en mettre, comme on disait tout à l'heure, dans votre rhum arrangé. Vous mettez quelques écorces, quelques morceaux, quelques graines, si vous voulez, ou quelques capsules de cardamome. On retrouve Être Heureux. Être Heureux, c'était Skip the Use. C'est de rares chansons de Skip the Use en français. Il faut en profiter. Sur le 103.7 FM et dans l'émission Chaud Devant.
Je suis venu te dire, faut être heureux. Alors arrête de courir et de croire que t'iras mieux. Je suis venu te dire faut être heureux. On n'a qu'à sourire puis penser que c'est qu'un jeu. Dans mon canapé, une bombe devant les yeux. Un camouflé, un mensonge pour croire en Dieu. Et que j'ai vomi mes rêves trop pieux. J'suis juste venu te dire, faut être heureux. Y'a des paroles en l'air, un souffle, des gens hargneux. Du vent, des idéaux saisis au vol pour aller mieux. J'ai cru voir la mer. Oh mon Dieu, c'était somptueux. Mais y'a un ruisseau qui coule au fond de tes yeux. Et puis une lumière qui brûle au creux de tes joues. Je voulais juste la voir avant de devenir fou. Je suis juste venu te dire faut être heureux. On lève nos verres à tous ces gens parfaits. Cupide a servi au système qui les paie. On crie notre haine aux yeux de la justice. On marche solidaire mais finalement on sait qu'on n'y croit plus. Et on voit des paroles non digérées. Et puis on vide nos images téléchargées. On crée des situations mieux négociées. Parce qu'on nous a dit un jour ça va péter. J'suis venu te dire faut être heureux. Rien à foutre tu sais j'veux le lire au fond de tes yeux. Je suis venu te dire faut être heureux. Et puis après on verra. Qu'est-ce que tu veux? C'est des conneries. La vie elle est belle et c'est tant mieux. Je suis venu te dire faut être heureux. Faut être heureux.
La recette du jour, le fameux broyé du Poitou. Alors, là on devient plus terroir. Puisqu'on retrouve ce fameux broyé poitevin du Poitou. Le broyé du Poitou était à l'origine le gâteau de communion qui, une fois béni par le curé, était distribué le jour de la fête aux parents et amis. On le mange aussi dans les vins d'honneur lors des mariages, figurez-vous. Mais autant on faisait la communion au mois de mai, autant on se mariait plutôt au mois de juin. Préparation 20 minutes, cuisson 20 à 25 minutes. Il vous faudra... C'est très simple, il n'y a que 4 ou 5 éléments, c'est formidable. 250 g de farine, la moitié de sucre, donc 125 g de sucre, 125 g de beurre et 4 g de sel, un peu de vanille liquide ou de cognac. ou d'eau de vie. Vous pouvez aussi le faire de cette façon si vous n'aimez pas trop salé, parce que des fois on trouve des fois des broyés qui sont très salés. Parce qu'ils sont confectionnés avec du beurre salé. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre moitié beurre doux, moitié beurre salé. Comme ça, vous n'avez pas besoin de rajouter de sel. De toute façon, ce qui était important, c'est qu'on y trouvait toujours de la vanille ou du cognac. Et puis, quand on n'avait pas de cognac sous la main, et ben on mettait l'eau de vie de la ferme, celle qu'on fabriquait ou fabriquait la grand-mère. Et il vous faut surtout un œuf pour dorer la galette, pour qu'elle ait une belle couleur. Vous travaillez le sucre, le sel, si vous en mettez, le beurre ramolli en lui incorporant la farine, ainsi que quelques gouttes de vanille ou de cognac ou d'eau de vie. Formez une boule de pâte qui se détache bien. Abaissez votre pâte sur une plaque ou une tourtière en l'aplatissant à la main d'une épaisseur d'un centimètre et demi. Bordez le broyé en pinçant la pâte avec les doigts, badigeonnez à l'œuf battu, puis avec une fourchette, dessinez des croisillons au choix. Attendre 10 minutes avant d'enfourner. Laissez cuire 20 à 25 minutes, ça dépend de votre four. Surveillez bien la cuisson quand même. À four moyen, thermostat 6, laissez refroidir ce gâteau qui peut être conservé quelque temps dans un endroit sec. Et si on le laisse reposer 10 minutes, la pâte avant de l'enfourner, c'est pour qu'elle ne rétrécisse pas. On peut servir cette pâtisserie accompagnée forcément d'une crème anglaise. Alors quand on vous dit thermostat 6, ça peut être aussi aux alentours de 170-180 degrés. Donc pas dans un four très chaud. Puis comme la pâtisserie contient pas mal de sucre, eh bien ça risquerait de cramer par le dessous, voyez-vous, ou par le dessus, c'est comme vous voulez. On continue après le super jingle chaud devant, saison 2. S'il vous manque des proportions, des conseils de chef ou tout simplement l'envie de réécouter de la bonne musique, tapez pas trop fort radioreg.fr et retrouvez simplement mes podcasts chauds devant, datés et bien emballés, prêts à consommer sans modération.
Dans
dans la série Contes et légendes du Poitou. Voici un proverbe de saison. Au mois de mai, les essaims font les charrettes de foin. Première région productrice de miel en France, la région Poitou-Charentes l'était déjà au début du XXe siècle. La récolte commençait en mai, lorsque fleurissaient les premières fleurs sauvages et atteignaient son apogée fin juin, avec un miel foncé, assez liquide, dont le goût très prononcé provenait des fleurs des châtaigniers abondants dans les Deux-Sèvres. Ah oui, on aimerait bien, ça c'était le temps d'avant, on aimerait bien qu'en 2025, la région Poitou-Charentes soit toujours la première région productrice de miel. Mais la mortalité des abeilles s'accélère de jour en jour, la production baisse, donc le miel de qualité se fait de plus en plus rare. Juste avant, c'était donc Chaka Ponk avec Ted Algorithme. Et voici maintenant mon superbe jingle Contes et légendes du Poitou. Pour finir, je vais vous parler du bras rouge. Le bras rouge ou main rouge était souvent évoqué sur le cours de la Sèvre niortaise, donc la région de Niort, et dans le marais poitevin. Cette main ensanglantée surgissait de l'eau pour saisir les enfants s'approchant trop près du bord et les entraînait au fond. C'est vous dire si on se marre en chaud devant. Et malheureusement, on va pas pouvoir entendre le morceau en entier et on n'aura qu'une minute de rien du tout. Eh bien, c'est pas grave. On va rester sur notre générique. Il est hyper trad, hein, notre générique, là, notre jingle spécial Contes et légendes d'au Poitou. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine, eh bien, et puis aussi samedi, comme ça vous est expliqué, dans ce superbe générique Chaud Devant, saison 2. Je vous dis salut, je vous salue bien bas.
Tout juste sorti du four
sur REC 103.7.
Chaud Devant, l'émission culinaire plutôt épicée, présentée par Gilles. Des recettes, des témoignages, des rubriques poitevines, des tours de main, des conseils de chef et surtout de la musique. Le mercredi, retrouvez Chaud Devant de 11h à 11h30 et en rediffusion le samedi de midi à 12h30. Et c'est animé par Gilles.